Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Aujourd'hui, nous allons retrouver Benoît Béhard-Deric. Benoît Béhard-Deric est philosophe et historien, il est également collaborateur scientifique ici à l'ULB. Et nous allons aborder avec lui le thème de la Devotio Moderna, ce courant spirituel né aux Pays-Bas vers la fin du XIVe siècle et qui va notamment fortement influencer Érasme. On se voit aujourd'hui, Benoît Béhard-Deric, pour aborder un sujet qui touche aux religieux et qui est lié à nouveau à Maître Eckhart, un de vos grands favoris.
Oui, alors il est lié à Maître Eckhart, mais indirectement. C'est-à-dire qu'il s'agit de la dévotion moderne, la Devotio Moderna, qui peut apparaître à certains égards comme effectivement un aboutissement de ce vaste mouvement de la mystique réno-flamande, donc de la spiritualité des Pays-Bas du Nord, on va dire, de l'Allemagne, du Nord de l'Europe. Mais ici, on a affaire à un mouvement qui est apparu à la fin du XIVe siècle et qui a été l'un des mouvements de spiritualité les plus populaires de cette fin du Moyen-Âge. Vraiment, ça marque l'état de la spiritualité, l'état de la pensée religieuse de cette époque-là, en particulier du côté des laïcs notamment. C'est assez différent finalement de la mystique rhénane à proprement parler, mais peut-être j'expliquerai les différences un peu plus tard. Je voudrais d'abord situer un peu les choses, hein. D'abord peut-être le contexte. On est là donc au XIVe, XVe siècle pour le développement de cette dévotion moderne, cette dévotion nouvelle, qui naît donc aux Pays-Bas. Et pour planter un petit peu le décor, on peut faire référence au livre de l'historien néerlandais Johan Huizinga, L'automne du Moyen-Âge, un livre qui est paru en 1919, qui a été traduit ensuite, mais avec un mauvais titre. On a appelé ça Le déclin du Moyen-Âge, et puis ensuite il a trouvé son titre plus exact. Mais c'est un petit livre qui est remis en question aujourd'hui, mais qui est plein d'évocations poétiques notamment, puisque dans cet ouvrage, Johan Huizinga se propose d'aborder ces XIVe et XVe siècles, non pas comme l'aube de la Renaissance, mais comme le crépuscule du Moyen-Âge. Et il a des formules assez fortes comme celle-ci, quand il dit que c'est une période où la vie est tellement violente et tellement contrastée qu'elle dégageait des odeurs mêlées de sang et de roses. Donc le sang et les roses, parce qu'effectivement c'est une période qui était assez dure malgré tout. D'abord c'est une période qui a été marquée par la peste, il y a eu la grande peste noire des années 1347, 48, 50, et qui s'est prolongée parfois aussi un peu au-delà, mais qui a tuer un Européen sur trois. C'était une épidémie tout à fait dramatique, beaucoup plus forte que celle que nous avons connue en notre temps. C'est une époque qui est marquée aussi par une certaine angoisse, justement due à cette mortalité très forte, un souci de la part des populations de se préoccuper de leur de l'au-delà, de la manière de bien mourir, d'où le développement des arts de bien mourir, artes moriendi, des scènes macabres également, les flagellants qui parcouraient aussi certaines contrées d'Europe, qui se fouettaient pour en quelque sorte expier leur péchés. C'est une période qui est marquée également dans l'ouest de l'Europe, singulièrement en France, mais aussi ça touche nos régions par la guerre de Cent Ans, donc cette guerre qui a duré un peu plus de 100 ans en vérité, mais dans laquelle ont été impliqués justement les ducs de Bourgogne qui connaissent aussi leur apogée à ce moment-là, 14-15e siècle, dont l'historien Bart van Loo vient de d'écrire l'histoire dans un best-seller, Les Téméraires. Et donc c'est aussi une période qui est un temps d'épreuve pour l'Église parce qu'elle est marquée par le schisme, le grand schisme d'Occident. Donc il y avait à ce moment-là non, un pape à Rome, mais également un pape en Avignon. Et pendant donc de 1378 jusqu'aux années 1415, 1417, eh bien il y avait effectivement deux papes et il y avait une Église séparée en deux. Donc tout ceci fait que cette période a été effectivement très troublée, et c'est dans ce contexte-là que dans les Pays-Bas va émerger justement la dévotion moderne, qui ne s'appelle pas directement comme cela, mais qui va très vite être qualifiée ainsi par ses adeptes, dès le début du XVe siècle par un des chroniqueurs, Jean Bûche, qui appartient au mouvement et qui va dénommer ce type de spiritualité, la dévotion nouvelle, la dévotion moderne. Mais l'initiateur est un personnage qui s'appelle Gerard Groot ou Geert Groot, un néerlandais donc, qui vivait dans la région de Leysel à Deventer, donc aujourd'hui c'est la province de Overijssel, mais à l'époque c'était encore un évêché, une principauté ecclésiastique. D'Utrecht, donc il y avait un prince évêque, le prince évêque d'Utrecht qui gouvernait cette province, cette région, cette principauté, et au sein de cette principauté, il y avait un certain nombre de villes importantes, et parmi celles-ci, la ville de Deventer, qui était une ville en fait hanséatique, donc c'est une ville qui appartenait à la Hanse, cette grande organisation économique, commerciale, qui réunissait un certain nombre de ports du nord de l'Europe et de la Baltique, dont faisait partie Bruges aussi, hein, mais également Hambourg. Et donc cette ville avait assez bien d'autonomie, c'était une place commerciale importante, une ville florissante, et au sein de cette ville, donc Gérard Groth est né, et il appartenait à une grande famille de notables, de bourgeois, assez fortunés. Son père a été échevin, il s'occupait aussi des affaires commerciales, enfin des achats pour la ville, des fournitures en céréales pour la fabrication de la bière. Mais c'était un poste assez important. Malheureusement pour Gérard Groth, ses parents sont morts quand il avait une dizaine d'années. Sont morts de la peste, précisément. Donc, ceci renvoie encore à ce climat de l'époque assez anxiogène. Et Gérard Groth, qui va vivre, je le dis tout de suite, une vie relativement courte, puisqu'il mourra à 44 ans. Donc, il est né en 1340, il est mort en 1384. Et donc, par la suite, grâce à l'argent laissé par ses parents, il va pouvoir poursuivre des études à un niveau assez important, puisqu'il va se rendre à l'université de Paris, où il va acquérir des titres universitaires. Il va devenir maître SR, donc il va avoir une première formation universitaire d'un certain niveau. À ce moment-là, il s'intéresse à beaucoup de choses, il lit sur beaucoup de domaines, il réunit des livres sur toutes sortes de sujets, y compris scientifiques ou de connaissances. Mais il va, rentrant dans sa province de Leysel, des bords de la rivière Eysel, il va, à Deventer, bien obtenir quelques fonctions ecclésiastiques, quelques prébendes, quelques revenus, donc au sein de l'institution ecclésiale de l'évêché d'Utrecht. Mais il ne deviendra pas prêtre, il va rester un clerc, voilà. Il s'intéresse évidemment à des questions religieuses, mais dans un premier temps, sa vie est plutôt mondaine, on va dire, jusqu'à ce que se produise une sorte de conversion personnelle, conversion qui ne sera pas brutale, hein, ça s'étend sur les années 1370-1374, mais il y a quand même un événement qui est très marquant, que l'on situe autour de 1372, c'est une maladie dont il pense qu'il ne va pas réchapper. Et donc, il demande au prêtre de la paroisse de venir lui donner l'absolution, et celui-ci accepte à condition qu'il brûle en place publique tous ces livres de magie, dit-on, mais voilà, des livres de connaissances, des livres de savoir profane, qu'il brûle une partie de sa bibliothèque. Ce qui, dans un premier temps, le choque un peu, ce qu'il refuse de faire. Et puis, comme il avait quelques connaissances également en médecine, il observe son urine et il constate, il fait le diagnostic que peut-être il est arrivé effectivement au terme de son existence, et donc il accepte cette décision de brûler tous ses livres. Donc on a pu dire que la Devotio Moderna commençait par un autodafé, c'est-à-dire par des livres brûlés, et il se convertit tout doucement, donc à partir de là, vers une vie religieuse plus simple, plus authentique. Il va d'ailleurs suivre pendant quelques années, se rendre dans une chartreuse où il va mener une existence très sobre et pieuse, disons. Et puis, n'ayant malgré tout pas la vocation monastique, il va se lancer à partir de là dans une vie de prédication. Il va devenir diacre, donc, mais pas prêtre, comme je le disais, et il va essayer de convertir eh bien, toute une série de personnes à son nouveau mode de vie. Il va aussi donner sa maison à une. Il va se défaire de sa maison et il va la donner à une communauté de pieuses femmes qui vont s'y installer sur le mode un peu béguinal, un peu du mouvement béguinal. Disons que ce sont des femmes qui restent laïques, mais qui vont mener une existence un peu religieuse ou spirituelle au sein de cette maison. Et ça sera le début en 1374. Des sœurs de la vie commune. Parallèlement à cela, d'autres maisons vont se créer de frères de la vie commune, réunissant cette fois-ci des hommes qui vivent ensemble aussi, dont certains sont laïcs et d'autres sont des prêtres. Et donc ça c'est, on estime, le début finalement de ce mouvement de la dévotion moderne avec cette fraternité des frères et sœurs de la vie commune qui s'inspire de la figure de Gérard Groth qui est à ce moment-là, toujours en vie, qui est la figure tutélaire de ce mouvement, qui va également s'élever, protester contre certains manquements qu'il observe autour de lui avec assez bien de véhémence. Donc, par exemple, des prêtres qui ne pratiquent pas le célibat ou qui vivent en concubinage et qu'il appelle les focaristes. Et donc, il dénonce aussi les religieux qui vivent dans une pauvreté insuffisante, qui ne vivent pas assez dans la pauvreté. Et donc, il ne se fait pas que des amis en étant à ce point rigoriste dans sa critique de l'Église du temps et des manquements de l'Église du temps. Il a même quelques problèmes à cet égard avec l'évêque d'Utrecht. Cependant, il réunit autour de lui eh bien, un grand nombre d'adeptes, un grand nombre de personnes qui cherchent à suivre son exemple, mais il n'aura pas l'occasion de mener longtemps cette vie, puisque en 1384, se rendant au chevet d'un ami qui était malade, d'une maladie qu'on suppose être aussi la peste, mais on n'en est pas absolument sûr, il va lui-même contracter cette maladie et il va périr à cette occasion.
Ça veut dire, si je calcule bien, que c'est à peu près 10 ans de sa vie qui auront été consacrés à cette dévotion moderne.
Voilà, à peu près 10 ans, qui avaient été malgré tout précédés par un intérêt pour les questions religieuses avant, mais effectivement, le plus fort de cette activité, et après cette conversion en quelque sorte, eh bien, cela va représenter 10 ans, 10 ans au cours desquels il va donc réunir autour de lui des gens qui vont vouloir suivre son exemple. Et parmi ceux-ci, on peut citer le cas de Florent Radewijns, qui est également un Néerlandais de la région de l'Eifel, donc qui va le rencontrer de la région d'Utrecht, on peut dire, et qui va être le principal fidèle, le principal disciple de Geert Groot, Florent Radewijns, qui lui aussi va suivre une formation universitaire assez poussée à l'université de Prague, qui avait été fondée au XIVe siècle, et revenant dans la région d'Utrecht, il va se mettre au service en quelque sorte de ce nouveau mouvement de la dévotion moderne. Lui deviendra prêtre, à la différence de Groth, Par contre, il va commencer à entrer dans, il va entrer dans les ordres et puis il va en sortir. Il restera prêtre, mais il ne va plus, il va renoncer à une vie de moine. Par contre, il va véritablement être celui qui institutionnalisera ce mouvement de la vie commune. C'est lui qui va donner des statuts. Enfin, Groth en avait déjà écrit avant, mais il va continuer à affermir cette institutionnalisation des frères et sœurs de la vie commune. Et il va aussi créer, parallèlement à cela, une congrégation de chanoines réguliers de Windesheim. Alors, il y aura à la fois des hommes et des femmes, ici aussi, comme dans les frères et sœurs de la vie commune, mais là, il s'agira plus classiquement d'une congrégation religieuse, donc d'un ordre quasi-monastique, si on veut, avec des chanoines qui suivent la règle de Saint-Augustin et qui prononcent des vœux monastiques définitifs, à la différence des frères et sœurs de la vie commune qui, eux, peuvent aller dans ces maisons, mais qui ne sont pas tenus par des vœux monastiques et qui donc demeurent laïcs. Dans les communautés des frères et sœurs de la vie commune, ce sont des laïcs qui vivent une vie religieuse, mais qui restent pour l'essentiel des laïcs, même s'il y a quelques prêtres également du côté des frères de la vie commune. Et alors, ce mouvement va progresser, va prospérer. Parti des Pays-Bas, il va se développer également en Allemagne. Et ils vont aussi créer des écoles. Ils vont créer des écoles ou diriger des écoles. À Deventer, l'école n'est pas à proprement parler une école de la vie commune, mais les principaux professeurs et toute la spiritualité sera liée à celle de la vie commune. Et ils vont créer des écoles ailleurs, à Bois-le-Duc et dans d'autres endroits encore. La congrégation des chanoines va s'installer notamment. Eh bien, tout d'abord à Windesheim, je le disais. Alors, c'est près de Zwolle. Aujourd'hui, c'est dans la banlieue de la ville de Zwolle, à Kampen également. Et donc, ça va être une véritable émulation qui va se produire à ce moment-là. Il faut signaler peut-être que parmi les influences qu'ils ont reçues, il y en a une qui est très directement liée à la Belgique actuelle. Puisque l'inspirateur, en quelque sorte, de Groth et du mouvement de la vie commune, c'est en fait Jan van Ruysbroeck, qui était un chapelain bruxellois, hein, venu de la contrée de Ruysbroeck, juste à côté de Bruxelles, qui s'est installé en ville et qui a servi au sein de la collégiale de Sainte-Gudule. Saint-Michel et Gudule, donc, et qui, au milieu de sa vie, en quelque sorte, dans les années 1343, va aller s'installer en forêt de Soignes, à l'ermitage de Grunendal, qui va devenir par la suite un prieuré, dont il deviendra le prieur, et qui va y vivre donc au XIVe siècle, ayant écrit des œuvres de spiritualité mystique, d'union à Dieu par l'amour, l'œuvre la plus célèbre étant l'ornement des noces spirituelles, qui était traduite par la suite en français par Maurice Maeterlinck, mais qui a aussi été traduite en latin par Gérard Groth qui est allé lui rendre visite au sein de la forêt de Soignes, au prieuré de Grunendal, et qui va trouver chez Ruysbroeck véritablement quelqu'un qui va l'inspirer considérablement, notamment au travers de sa notion de la Gemeinleven, la vie commune, qui va être au cœur finalement de ce mouvement aussi de la dévotion moderne. Il y a une autre inspiration que l'on peut retrouver aussi au travers finalement du mouvement Béguinal, qui est plus ancien, qui se développe donc en Europe du Nord à partir des années 1200, peut-être dans la région de Liège au départ, et qui va se poursuivre dans nos régions encore beaucoup plus tard dans le temps. C'est un mouvement de femmes et aussi d'hommes, donc les béguines et les bégards, principalement des femmes malgré tout, qui là aussi mènent une vie religieuse mais reste laïque. Donc c'est une vie que l'on qualifie de semi-religieuse parce que les béguines ne prononcent pas en tout cas de vœux définitifs. Certes, elles portent un habit qui les distingue, mais au départ de ce mouvement, il y avait des béguines qui étaient isolées, qui vivaient seules, comme Marguerite Porrette par exemple, et puis d'autres qui vivaient en communauté. Mais ce qui est très important, c'est que cela marque l'entrée finalement des laïcs dans la vie religieuse. C'est en quelque sorte la spiritualité ou la mystique ou le projet de perfection spirituelle qui sort du cloître et se répand au sein de la société auprès de personnes qui restent avec un statut laïque ou en tout cas semi-religieux, qui n'entrent pas directement dans les ordres, qui ne prononcent pas de vœux définitifs, mais qui pour autant se comportent comme des religieux qui vivent en communauté. Et donc c'est une laïcisation en quelque sorte ou une extension de la vie religieuse en dehors des couvents, en dehors du cloître, comme je le disais. Et donc sous cet angle-là, eh bien, on peut considérer que la Devotio Moderna réalise l'aboutissement de ce mouvement d'implication des laïcs dans la vie religieuse qui se développe dès le milieu du Moyen Âge, mais qui va connaître une très grande extension à la fin du Moyen Âge. On pourrait encore souligner quelques aspects, peut-être je le ferai plus tard, sur l'influence éventuelle que cela a sur la réforme, mais je ne voudrais pas brûler les étapes. Je voudrais revenir maintenant peut-être à ce mouvement de la dévotion moderne qui est baptisé dans les années 1400 par un des membres de cette communauté. Ce qui va être l'élément le plus marquant, le plus important au sein de ce mouvement, c'est la production d'une œuvre. Une œuvre qui va devenir l'une des œuvres les plus célèbres et les plus lues dans le monde après la Bible, dans le monde de la chrétienté en tout cas, c'est l'Imitation de Jésus-Christ. Alors cette œuvre en fait, elle figure à côté d'autres œuvres qui sont des écrits spirituels qui sont recopiés ou parfois produits par des membres de la Devotio Moderna qui rédigent des écrits spirituels en langue vulgaire aussi, donc en ancien néerlandais, en ancien flamand parfois, des œuvres qui sont des recueils aussi de pensées, de pensées spirituelles qu'on appelait des rapiaria. Et parmi ces œuvres, dans les premières années dans la première moitié du XVe siècle, exactement dans les années 1410 à 1427, paraissent successivement quatre livres qui au départ ne sont pas nommés et qui sont anonymes. Quatre livres que l'on va réunir en un seul comprenant quatre parties, et que l'on va nommer d'après l'incipit du premier livre, donc d'après les premières phrases du premier de ces livres, c'est donc De Imitatione Christi, de l'imitation de Jésus-Christ. Alors cet ouvrage est anonyme, mais aujourd'hui la critique historique a réussi plus ou moins à identifier un auteur, même s'il y a toujours une petite incertitude. Dès l'époque déjà, on avait parlé de Thomas à Kempis, puisque c'est finalement l'auteur de ce livre, comme l'un des auteurs possibles. Mais il y avait en fait une certaine une grande incertitude autour de l'auteur, puisque ce n'est pas moins d'une quarantaine de personnes à qui l'on a attribué cet ouvrage. Mais parmi ces auteurs à qui on a attribué ce livre, finalement la concurrence s'est réduite assez rapidement à deux. L'un étant le chancelier de Paris, Jean Gerson, un universitaire important, qui est l'auteur d'une œuvre considérable, qui a écrit des traités de spiritualité aussi sur le cœur, la place du cœur dans la relation à Dieu, qui a été conseiller des rois de France. Et donc, le livre a circulé très fréquemment avec le nom de Jean Gerson. Mais on a aussi d'autres copies attribuées à Thomas à Kempis. Et finalement, c'est Thomas à Kempis qui semble l'emporter dans les attributions, puisque on a retrouvé notamment un manuscrit ici à la Bibliothèque royale datant de 1441, autographe de Thomas à Kempis, et donc on pense bien qu'il en est l'auteur. Mais juste une petite chose encore amusante, cette polémique autour de l'auteur de cette œuvre a rebondi au XVIIe siècle, où on a redécouvert, ou découvert plus exactement, en fait inventé, un nouvel auteur qui serait Giovanni Gersen, et qui serait un moine italien bénédictin du XIIIe siècle. Alors évidemment, en fait, il s'agissait simplement d'une déformation de Jean Gerson, mais comme se serait agi cette fois-ci d'un bénédictin, eh bien les bénédictins se sont engagés dans ce combat pour cette œuvre en disant que oui, c'est un membre de l'ordre bénédictin qui a écrit cet ouvrage, alors que de l'autre côté, on avait les chanoines réguliers de Saint-Augustin, dont faisait partie Thomas à Kempis, qui eux soutenaient que c'était un chanoine de Saint-Augustin qui était l'auteur de cette œuvre. Donc Thomas à Kempis, en fait, c'est simplement un Allemand qui vient de la région de Cologne, Kempen, mais qui est allé rejoindre un des couvents de la congrégation de Windesheim, au Mont-Sainte-Agnès, près de Zwolle, et qui s'est donc appelé, d'après son lieu d'origine, Thomas à Kempis ou Thomas de Kempen. Son vrai nom était Thomas Emmerken. Voilà, et donc il va au sein de cette communauté rédiger un certain nombre d'œuvres et puis être copiste aussi. Et il va vivre jusque en 1471, et il est né à la fin du XIVe siècle.
C'était courant à l'époque, Benoît Béhard-de-Ryck, d'avoir des mouvements d'une telle ampleur, parce que enfin, quand vous expliquez cette dévotion moderne, s'installer à la fois du côté des laïcs, du côté des religieux, monter des écoles, c'est quand même déjà c'est un mouvement très ambitieux, tout en présentant une manière de vivre qui, alors vous l'avez expliqué évidemment, vu les angoisses inhérentes à l'époque, l'idée de vivre une vie meilleure pour s'assurer, surtout une vie meilleure dans l'au-delà, pouvait être tentante, mais malgré tout, ce qui est attendu des gens qui s'inscrivent dans ce courant n'est pas évident.
Non, je crois pas que ce soit tellement courant d'avoir un mouvement de cette ampleur. Pour les périodes qui précèdent, je disais, on pouvait faire référence au mouvement Béguinal, qui a été quand même très important, qui a été repris en main d'ailleurs par l'Église à la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle, de manière assez ferme, assez brutale, hein, puisqu'on a réprimé certaines béguines qui apparaissaient comme étant des béguines hétérodoxes, et puis ensuite le mouvement s'est maintenu sous une tutelle, sous une conduite ecclésiastique beaucoup plus forte et dans une région géographique beaucoup plus limitée. Mais je dirais que c'est un peu le mouvement que je verrais comme ayant une ampleur aussi importante que celle de la Devotio Moderna. Bon, au Moyen Âge, on a connu d'autres mouvements, évidemment, si on peut évoquer par exemple le catharisme, mais ça c'est un mouvement hétérodoxe, mais c'est un mouvement aussi qui était d'importance. Il y a des mouvements internes à l'Église, comme le développement d'ordres nouveaux, les ordres mendiants au XIIIe siècle, les dominicains, les franciscains, qui là aussi sont une petite révolution au sein des courants réguliers, des courants de personnes qui vivent en suivant des règles au sein du clergé et au sein de l'Église, mais un mouvement véritablement de cette ampleur qui touche à la fois des laïcs et des clercs, eh bien, il n'y en a pas pour cette fin du Moyen Âge. C'est vraiment cette dévotion moderne qui représente cette expansion la plus grande d'un mouvement principalement de laïcs qui veulent mener une vie spirituelle intense. Alors justement, peut-être la suite, c'est en fait la réforme. C'est la réforme protestante, d'où la question qui peut se poser, qu'on a pu se poser, est-ce que la dévotion moderne est eh bien, les prémices de la réforme protestante?
Oui, parce que vous disiez tout à l'heure que certains des textes qu'ils utilisaient étaient en langue vulgaire.
Voilà, alors en fait, par certains côtés, on peut vraiment comparer les deux mouvements, puisqu'il y avait la prédication en langue vulgaire, le fait de lire les textes, de lire la Bible, de lire des textes en langue vulgaire, de lire éventuellement la Bible en version traduite. Il y avait l'implication des laïcs dans ce mouvement. Et donc, et la critique aussi, la critique des manquements de l'Église, la critique d'un clergé qui n'est pas à la hauteur. Donc, sous ce rapport, on peut considérer qu'il y a des ressemblances. Cependant, la plupart des historiens s'opposent au fait de considérer la dévotion moderne comme les prémices de la réforme. Et tant les historiens catholiques que les historiens protestants ou que d'autres historiens, mais ni catholiques ni protestants. Mais donc les catholiques ne veulent pas faire de ces réformateurs des pré-protestants ou des proto-protestants, parce qu'il faut dire que, par exemple, un livre comme L'Imitation de Jésus-Christ, qui cristallise un peu toutes ces tendances de la dévotio moderne, va être lu effectivement par les protestants, mais aussi principalement par les catholiques, et va servir de modèle à quelqu'un comme Ignace de Loyola, le fondateur des jésuites. D'autre part, eh bien, ils ne se sont jamais opposés frontalement à l'Église. Ils n'ont pas remis en cause les dogmes principaux de l'Église catholique. Ils n'ont pas remis en cause l'institution de l'Église catholique. Il y a toute une dimension du mouvement qui est quasi monastique, avec la congrégation des chanoines de Windesheim. Et aussi, il faut souligner que dans l'imitation de Jésus-Christ, dont je n'ai pas détaillé le contenu, mais peut-être je peux en dire un mot, il y a donc quatre livres qui ont été amalgamés, hein, qui n'avaient peut-être pas une structure tout à fait linéaire. Mais dans ces quatre livres, il y en a trois qui sont finalement une sorte de traité de vie spirituelle. Le premier étant plus tourné vers la question des exercices spirituels, le second autour de la personne de Jésus-Christ, le troisième est une sorte de traité du mépris du monde ou de la manière de rentrer en soi-même et de se détourner du monde, des vanités du monde, et le quatrième est tout entier consacré au sacrement de l'Eucharistie. Et donc ce quatrième livre est un livre qui ne conteste pas les sacrements et qui même valorise considérablement ce sacrement de l'Eucharistie, que les protestants appelleront la Sainte Cène, et qui n'est pas reçu de la même manière dans le monde protestant, puisqu'il y avait, il y aura une contestation assez ferme du principe de transsubstantiation chez les protestants, c'est-à-dire le fait que le pain et le vin sont vraiment le sang et le corps du Christ est pas simplement un symbole, disons. Et ça sera une pierre d'achoppement dans les conflits entre protestants et catholiques à partir du moment où la réforme va apparaître au XVIe siècle. Et donc, de ce point de vue-là, il est à noter d'ailleurs que ce livre de l'imitation de Jésus-Christ, qui va connaître une large diffusion dans le monde catholique, mais également dans le monde protestant, sera régulièrement ou quasi systématiquement amputé de son quatrième livre dans la diffusion protestante. Donc ceci pour dire que, à bien des égards, on ne peut pas dire que les Frères d'Avis Commune ou le mouvement de la dévotion moderne est tout à fait à considérer comme les prémices de la réforme. C'est ce que pensent, je le disais, les historiens catholiques, mais c'est également ce que pensent les historiens protestants ou la plupart d'entre eux, qui peut-être veulent minorer les aspects de la dévotion moderne pour ne pas enlever peut-être le mérite ou la gloire, je ne sais pas, de Luther ou de Calvin, en leur trouvant des prédécesseurs. Mais au fond, ces historiens considèrent que cette dévotion moderne n'est peut-être pas aussi moderne qu'il n'y paraît, et qu'elle est en fait encore assez traditionnaliste et encore assez proche finalement du monde catholique ancien. Mais il n'en demeure pas moins que cette forme nouvelle de prière, de dévotion, a amené à un changement dans les mentalités, un changement dans les approches du phénomène religieux, et principalement au travers d'une personnalisation beaucoup plus importante des pratiques religieuses, d'une individualisation qui a conduit à, en fin de compte, à la prière solitaire, à la dévotion dans le silence d'une maison, d'une chambre, d'un jardin peut-être, des pratiques qui sans doute existaient déjà dans les institutions religieuses, dans les monastères, dans les couvents, mais qui là tout à coup se répand aussi auprès des fidèles communs, des laïcs, des personnes qui sont hors des institutions religieuses, et qui vont pouvoir prétendre atteindre aussi à ce type de perfection spirituelle et à une sorte de vie méditative et aussi dont le but est finalement très pratique. Il y a une dimension aussi anti-intellectuelle dans ce mouvement de la dévotion moderne qui transparaît bien dans l'imitation de Jésus-Christ, où il est dit qu'il ne servirait à rien de connaître par cœur la Bible si au fond on ne la pratiquait pas intérieurement. Et donc il y a un certain rejet de tout ce qui est la spéculation intellectuelle, ce qui d'ailleurs permet d'établir une distinction entre ce type de dévotion et de spiritualité et la mystique rhénane prêchée par Maître Eckhart, parce qu'avec Maître Eckhart on était davantage dans la spéculation, ici on est vraiment dans la dévotion. On est dans la dévotion et on est dans une approche qui est, encore une fois, très pratique. Mais cela signifie que, très concrètement, on invitait finalement les fidèles communs à, dans leur vie de tous les jours, essayer de suivre Jésus-Christ et de l'imiter au travers de toute une série de pratiques dévotionnelles.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Benoît Berderic de m'avoir accordé cette interview. Pour la suite, deuxième partie de l'interview, eh bien, il vous faudra attendre la semaine prochaine. Et d'ici là, eh bien, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir.